c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr. On écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Chut, on écoute la télé avec votre Club Med La Palmyre Atlantique. Envie de vous évader le temps d'une journée ou d'une soirée all inclusive? Avec votre Club Med, c'est possible. Profitez des animations et des activités sportives, de la restauration le temps d'une parenthèse bien méritée. Renseignements et réservations au 05 46 39 77 30. Club Med, venez vous étonner.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, où j'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé à la veille d'Halloween. On va consacrer une large partie de cette émission à la sortie du film Flow, qui sortira mercredi dans les salles. À cette occasion, la réalisatrice Géraldine Danon, ainsi que les comédiens Stéphane Caillard, Samuel Jouy, mais également Marilyn Canto et également Alexis Michalik seront nos invités. Et ils seront tous accompagnés de Philippe Poupon. Un grand honneur pour nous de recevoir toute cette équipe. Et puis on va également parler de Candice Renoir. Épisode spécial Halloween vous attend sur France 2. Son héroïne Cécile Bois va venir nous en parler. Et puis Eleanor Bernheim sera à l'affiche de Mort sur la piste. Elle va partager ce film avec Jason Priestley. Alors là, tout un symbole évidemment pour elle, fan de Beverly Hills. Le film sera diffusé samedi soir sur France 2. Et puis on va parler de Sophie Cross sur France 3, le grand retour demain pour une deuxième saison inédite. À cette occasion, son héroïne Alexia Barlier va venir nous en parler. Le couple terrible d'Ici tout commence, Tom Darmon et Margot Aguilar, eh bien vont être également nos invités pour nous parler de leur rôle mais également de leur projet.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre spécial coup de cœur cinéma aujourd'hui consacré à Flo qui sort mercredi dans les salles. Quel bonheur d'avoir toute une partie de l'équipe aujourd'hui avec nous dans Chute, on écoute la télé. On va commencer par la réalisatrice Géraldine Danon. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
L'héroïne de ce film, Stéphane Caillard, qui interprète de façon magistrale Florence Artaud. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci d'être là. Et puis Alexis Michalik, un habitué de l'émission qu'on est très heureux de retrouver, dont vous pouvez voir d'ailleurs son dernier film en VOD, DVD, Une histoire d'amour, qui est d'ailleurs un film incroyable qu'on a eu la chance de promotionner l'année dernière avec toi, mon cher Alexis. Ça va bien?
Tout à fait, ça va très bien et merci du coup de promo.
Merci d'être là tous les trois parce que c'est vraiment, on va avoir Marilyn Canto, Philippe Poupon et Samuel Jouy qui vont nous rejoindre aussi dans un instant. C'est un film qui nous a vraiment marqué, qui a été la fin du festival d'Angoulême en août dernier. Ça a été, je crois, mais une ovation du public. Et moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais qu'on apprend des choses, Géraldine, et qui peut mieux que vous faire ce film?
Je crois que la mise en scène est affaire de point de vue, et effectivement, Florence était mon amie, donc c'est mon point de vue sur elle. J'ai essayé de la raconter au plus proche de ce que j'ai ressenti d'elle, d'une amitié, une longue amitié, puisque je l'ai rencontrée dans les années 80 et qu'on a eu de cesse que de se suivre et d'être très proches tout au long de nos vies, jusqu'à ce qu'elle disparaisse tragiquement dans cet accident d'hélicoptère. Donc oui, il est vrai que j'ai essayé d'apporter un éclairage profond et intime sur cette femme tout à fait exceptionnelle, extrême à tous les égards, je dirais, et ce grand marin qu'elle était.
Stéphane, quand on s'apprête à incarner une femme avec une destinée pareille, c'est un cadeau pour une comédienne.
Bah, et Florence Artaud, et aussi le scénario construit autour et sur Florence Artaud, était un défi absolument fascinant et excitant. Et voilà, il y a la femme qui était Florence Artaud et il y a l'histoire que raconte Géraldine. Et les deux ensemble, ça fait un portrait de femme qu'il était très excitant de réussir, mais de me mettre à l'épreuve de cette chose-là.
Alexis, Olivier de Kersauzon, plus vrai que nature.
Oui, bah merci.
Avec le phrasé, les mimiques, il y avait tout. Hein.
C'est vrai. Alors le phrasé, c'est enfin les textes que vous entendez, c'est évidemment le scénario de Géraldine, mais en tout cas le but c'était de pas décevoir, parce que c'est vrai que de tous les marins, c'est pas celui qui a le plus gagné de courses de loin, hein, mais en revanche c'est le plus connu à cause des livres qu'il a écrits, à cause de sa notoriété, à cause des grosses têtes, à cause de tout ça. Et c'est vrai qu'il incarne un peu le marin tel qu'on l'imagine aujourd'hui, un peu bourru mais avec de l'esprit, puis avec un lettré. Un vrai lettré, quoi, donc pas un imbécile.
Géraldine, est-ce qu'il y a des difficultés particulières, justement, ce que on disait avec Stéphane, mais il y a beaucoup de scènes en mer, les éléments, faut faire avec toute une équipe de tournage.
Comme le disait Stéphane, c'est vrai que c'est un tournage intense, hein, puisqu'on a pas mal de scènes en mer, bien que je tiens à le préciser, ça reste quand même un portrait de femme. On a pu avoir quelques retours maintenant, deux jours avant la sortie, le film a été vu par quelques personnes, notamment en tournée, et je sais que même les gens qui n'aiment pas la voile ou qui n'aiment pas le bateau aiment le film parce qu'ils s'y retrouvent tous dans l'histoire absolument romanesque, comme vous le disiez, et extraordinaire de cette femme au destin si particulier. Donc oui, ça a été un tournage intense, mais je dirais qu'il y avait une très belle énergie de la part de toute l'équipe, de tous les acteurs, et que je me suis sentie portée à tous les égards et portée aussi par la jolie étoile de Florence qui veillait sur nous.
C'est ça que je me dis, vous qui avez été si proche d'elle, Géraldine, quand vous avez mis en boîte vos premières prises, vos premiers rushs avec Stéphane, devant la caméra, vous êtes dit quoi à ce moment-là?
Ah ben c'est vrai que plusieurs fois, quand je voyais Stéphane derrière ce qu'on appelle le combo, le petit écran vidéo, j'avais les poils qui se dressaient sur mes bras, parce que j'avais vraiment l'impression de retrouver Florence dans les intonations, dans le visage, dans la façon de vivre les choses. Je voyais Florence, c'était l'objectif, c'est pour ça que j'ai choisi Stéphane. Je savais qu'elle avait encore une fois cette grâce, cette puissance, cette
ressemblance aussi.
Cette ressemblance, mais c'était pas forcément ce que je cherchais. Au début, je dirais que la ressemblance, elle est venue petit à petit en rentrant dans le film, aussi de par les cheveux, le maquillage, bien qu'on en ait très peu, mais je crois que Stéphane s'est fait habiter par Florence à mesure que le film avançait. Non, ce que je voulais, c'était vraiment ce paradoxe entre une grande force et une extrême fragilité.
On voit tellement de facettes de Florence Artaud dans le film, que ça soit des fois son côté excessif, rebelle, amoureuse de la vie, enfin, on y découvre mais des facettes assez incroyables et dont nous, des fois public, on soupçonnait pas du tout. Stéphane.
Bah, moi, jusqu'à la lecture du scénario et jusqu'à toute la période de documentation, je le soupçonnais pas forcément non plus de manière évidente. Moi, je connaissais l'icône que ça a été, icône féminine, grande sportive, icône branchée, enfin, c'est tout ce que j'avais en tête. Après, j'ai découvert, voilà, que c'était quelqu'un de plus extrême que ce que je pouvais imaginer, que ce soit dans ses trajets de vie, cet accident de voiture, et puis finalement repartir en mer, puis finalement les accidents en mer, et puis c'est une vie dense, et une femme qui, je crois, ne s'est pas interdit beaucoup de choses, et qui a vécu en fonction de ses désirs, de ses peurs, et voilà, c'est un vrai beau portrait dans toute la complexité.
Quand on s'intéresse à sa vie, on s'aperçoit que je n'ai rien inventé au-delà de ma perception d'elle. Elle a écrit toutes ces choses-là. Elle a beaucoup laissé de traces. Elle a beaucoup parlé d'elle. Elle s'est beaucoup racontée dans les livres, à la radio. Et c'est vrai que ça a été même la difficulté quand je me suis intéressée au scénario, a été tranchée dans sa vie pour en ressortir les épisodes qui me paraissaient les plus représentatifs de ce que j'avais envie de montrer d'elle. Tellement il se passe de choses et tellement elle en raconte.
Quelque chose qu'on savait pas trop quand même, c'est cette relation qu'elle entretenait avec Olivier de Kersauson pendant un bon moment, hein, mine de rien.
Alors le grand public ne le savait pas, mais les marins le savaient, hein. C'était pas un secret qu'ils se sont vus et qu'ils ont beaucoup compté l'un pour l'autre, en tout cas. Mais c'est vrai que voilà, on découvre ça, c'est aussi une adaptation du bouquin de Yann Kefelec. Ensuite Géraldine a pris sa liberté également, même s'il a travaillé sur le scénario. Et puis ça reste évidemment un film, donc c'est pas un documentaire, donc les dialogues au final appartiennent aussi à la plume de Géraldine, mais il en reste cette histoire d'amour entre deux marins qui sont confrontés à leur nature de marin. Et leur nature de marin, c'est d'aimer la liberté, c'est d'aimer le large, c'est d'aimer la mer, et ça c'est pas forcément compatible avec avec la vie de famille.
Si vous avez une petite anecdote à nous raconter, Géraldine.
Alors, bah oui, Alexis qui décortique une langoustine. Moi, vous savez...
La vue était belle, hein.
Ma direction d'acteur, elle passe beaucoup par mettre les gens dans un état. Donc, vous avez pu vous apercevoir des scènes entre tous les marins à l'époque, parce que c'est aussi, il est aussi question de ça dans ce film, de joie, de fête, de, parce que c'était le cas. Hein. Donc, pour chauffer tous ces jeunes gens qui venaient interpréter les acteurs en question, il m'arrivait de rester tard le soir avec eux et on partageait des moments aussi joyeux que ce qu'on peut voir à l'écran. Voilà. Et puis la grande anecdote qui reste, c'est vraiment, enfin, qui n'est pas une anecdote, mais le grand moment d'émotion, c'est l'arrivée de la route du Rhum, où là, en plus, il se trouve que ça s'est tourné dans la chronologie, donc on était tous épuisés comme Florence quand elle arrivait à ce moment-là, et où on a eu une sorte de magie. Les figurants étaient complètement fous. On avait l'impression qu'ils accueillaient Florence Artaud pour la deuxième fois. Le bateau, le vent était parfait. On avait vraiment une bonne étoile, encore une fois, il y a une sorte de magie qui a opéré sur cette scène et qui, je crois, se ressent à l'écran, si j'en crois ce que me rapportent les gens.
En tout cas, la belle étoile s'appelle Florence Artaud, ça c'est sûr. Je pense qu'elle a dû veiller sur ce tournage, elle a veillé au grain. Stéphane, un souvenir particulier?
Quand ils m'ont laissé en haut du mât.
Quoi? Mais c'est pas possible, combien de temps?
Non, mais ils m'ont bien laissé une petite heure, quoi. Le temps que le drone arrive, ça restera ma sensation personnelle.
La vue était belle.
Quelqu'un m'avait quand même laissé sous-entendre que je risquais de me faire scalper si j'étais trop près du mât, quoi, donc... Je suis partie avec vraiment de grandes espérances en haut. Et ouais, un grand moment de solitude. Bon, j'ai parlé toute seule, j'ai invectivé, j'ai... Voilà, ça restera un gros souvenir.
Pour toi, Alexis.
Moi, un seul, ce serait difficile, mais c'est un film où on a beaucoup voyagé. Donc, on a été en Bretagne, et puis on a été en Afrique du Sud, et puis on était en Guadeloupe. Donc, ça, c'était un véritable bonheur de se retrouver à tourner là-bas. Et moi, j'avais pas les scènes de Stéphane, puisque je faisais pas de voile dans le film, en tout cas. Mais j'avais une ou deux scènes sur un bateau à moteur, et notamment une qui a l'air de rien. Hein, juste, on accoste tous les deux sur une petite plage. Et vraiment, quand on voit le plan, ça dure 4 secondes. Sauf que, on était tous les deux dans le bateau, il y avait des rochers à droite et à gauche, il fallait que je sais plus porter le panier de poissons, relever le moteur, essayer de pas se planter dans le rocher. Allez moteur, action. Et puis bon, heureusement on n'a pas pété le bateau, mais voilà, c'était ça, un petit peu ce genre d'ambiance sur le tournage où parfois c'était allez, on y va, on tourne, c'est maintenant. Donc c'était aussi une petite forme d'aventure, quoi. Mais c'était, au final, tout s'est bien passé, c'était un bonheur.
Bon, juste avant d'accueillir Marilyn Canto, Samuel Jouy et Philippe Poupon, on va parler juste de vos projets pour terminer. Stéphane, bientôt cinéma, théâtre, télévision, est-ce qu'il va y avoir d'autres choses?
Je suis en ce moment au théâtre Marigny, dans la pièce de Ruy Blas, mise en scène par Jacques Weber. Voilà.
Pour toi, Alexis?
Moi, j'ai un prochain spectacle qui commence en janvier au Théâtre de la Renaissance, et ça va s'appeler Passeport.
Bon, Géraldine?
Oui, moi, je travaille à l'adaptation d'un livre de Mélissa Dacosta qui s'appelle Les femmes du bout du monde et qui se tournera en Nouvelle-Zélande, je pense, en août ou en septembre.
Allez, on va écouter la bande-annonce Flo. Ça sort mercredi dans les salles. Et juste après, on revient avec la seconde partie de l'équipe. Merci Géraldine, merci Alexis et merci Stéphane. À bientôt.
Merci. J'arrive de Paris. Je suis venu voir les bateaux, je suis venu voir la mer.
Je vous présente
Florence.
Ça te dirait de traverser l'Atlantique avec moi?
Tout est nouveau pour moi, la terre ne me manque pas.
En attendant, les vacances sont finies, ma chérie. C'est la fac maintenant ta priorité.
Ne bougez pas, dans un instant, on continue notre spécial flow dans Chute en écoute la télé. Alors à tout de suite.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et on continue notre spécial flow. On va accueillir Philippe Poupon qui nous a rejoint. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Marilyn Canto. Merci d'être avec nous, Marilyn.
Bonjour. Merci.
Samuel Jouy aussi qui est avec nous. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Merci d'être là tous les trois. On va continuer à parler de flow. On a planté un peu le décor évidemment avec Géraldine, Stéphane et puis Alexis. Marilyn, alors toi tu joues la maman de Florence Artaud dans le film. Qu'est-ce qui t'a plu d'abord dans le projet? Comment t'as abordé ton rôle? Comment tu t'y es préparée en tout cas?
Ce qui m'a plu dans le projet, c'est Géraldine,
et Florence. C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait une telle sincérité, une telle authenticité dans le désir de Géraldine de raconter cette aventure et cette femme, que moi, j'ai été très vite séduite par la détermination qu'elle avait à raconter la détermination de cette femme. En fait, les deux forces conjuguées, j'étais sûre que ça ferait un film puissant. Et voilà, donc ça, c'est la première chose. Et c'était déjà dans le scénario. Et ensuite, elle m'a proposé ce rôle et j'ai voulu participer à l'aventure, j'ai voulu participer à ce film parce que je trouve que cette mère, elle est touchante, elle est discrète et à la fois elle est très aimante et très près de sa fille malgré tout, quoi. Et Géraldine m'a parlé de cette femme qu'elle connaissait, elle m'a montré des documents, des photos, il y avait des vidéos aussi, on voyait cette femme accueillir sa fille à la route du Rhum, on voyait l'explosion de joie, l'incroyable émotion que c'était, et rien que ces images-là, c'était déjà un film merveilleux, c'était déjà un film d'une puissance folle. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai eu envie d'y participer.
Alors Samuel, Jean-Claude a été un peu le premier grand amour de la vie de Florence, hein, mine de rien.
Son premier amour, et puis surtout le premier homme à lui faire traverser l'Atlantique. Donc c'est, j'imagine, une étape très importante dans son parcours, une étape sentimentale et aussi la révélation de l'amour pour la mère.
Comment tu te prépares un rôle comme ça ?
Celui-là, en l'occurrence, j'ai lu le livre de Jean-Claude Parisi, il a écrit un livre, ça m'a beaucoup inspiré, je me suis senti beaucoup de points communs avec lui, et voilà, je suis parti comme ça un peu à l'instinct, et puis après j'ai fait confiance à Géraldine, aux situations, et puis à la magnifique actrice qui était en face de moi.
On va revenir un peu avec Philippe aussi. Philippe, vous l'avez bien connu, Florence, évidemment. Quel regard vous portez sur le film de Géraldine là aujourd'hui, et j'imagine l'émotion que ça peut vous procurer de voir ce film aujourd'hui.
Oui, parce que c'est la vie de Florence, et c'est la, tout est vrai dans ce film. Tout est rempli de l'émotion, de son combat, de vouloir faire de la voile. C'était pas facile. On le voit dans le film. Elle n'arrive pas à embarquer sur la course autour du monde. Après, il y a des difficultés de trouver des sponsors pour courir les transatlantiques comme la route du Rhum. Donc, on a ce combat qu'avait engagé Florence dans sa vie. Elle voulait certaines choses, entre autres la voile. Elle voulait gagner des courses, hein. Et elle a réussi. Donc c'est pas par hasard qu'elle a réussi à gagner cette route du Rhum. C'est par sa volonté, sa passion. Et puis dans ce film, on voit sa vie amoureuse. Elle était amoureuse de la vie. Elle était amoureuse des hommes. Donc on trouve toute la saveur et l'émotion. C'est vrai que je suis pas le seul à avoir eu des larmes en voyant ce film.
On va parler justement donc du cadeau que c'est pour vous, justement comédien, de pouvoir tourner dans plusieurs endroits. Si je me souviens bien, beaucoup de tournages en Afrique du Sud, peut-être pour toi Samuel, et en France, hein, pas en Guadeloupe du coup.
Non, mais je les ai accompagnés en Guadeloupe. J'ai eu la chance.
Tant qu'à faire.
Voilà, tant qu'à faire. Afrique du Sud et Newport, ça devait être aux États-Unis. Pour pas spolier les images, je vais dire que c'est aux États-Unis. Mais moi, il y a eu un petit recadrage de décor, on va dire.
Magie du cinéma.
Voilà, magie du cinéma, mais c'est à Newport. Et Etretat, qui est pas très loin, mais qui est sublime. En hiver, surtout, comme on était, c'était vraiment magnifique. Hein, j'en garde un très bon souvenir d'Etretat.
Marilyn ?
Oui.
Guadeloupe et France, hein, pour le personnage, hein, de la maman.
France et Bretagne aussi. Et oui, évidemment, c'est surtout que ça avait du sens, en fait. C'est-à-dire la route du Rhum. Je parlais de l'arrivée ou je parlais du départ et tout ça. Que ces lieux dans les lieux réels, ça donnait un sens incroyable au film. Et je vois pas comment elle aurait pu faire autrement. Et nous, les acteurs, ça nous porte, en fait, puisque ce sont les décors sur lesquels ces choses ont eu lieu. Donc ça nous inspire tout de suite. On est tout de suite, on a tout de suite envie de jouer.
On va revenir sur vos meilleurs souvenirs à tous les deux. Philippe, vous avez été sur le tournage un petit peu ?
Pas beaucoup, parce que je me suis occupé du trimaran. Donc je suis pas allé en Afrique du Sud, un endroit que j'adore. Et j'avais un rôle, c'est de que ce bateau, donc le Pierre Ier, c'est le bateau avec lequel Florence a gagné la Route du Rhum, que ce bateau soit dans le film. Alors il a fallu qu'on aille le chercher très loin aux Philippines. qu'on le ramène en France, qu'on le remette en état et qu'on lui redonne cette parure dorée qu'avait voulu Florence, qu'elle avait quand elle a gagné la route du Rhum. Je me suis occupé de ce bateau pour qu'il existe. Il est très beau dans le film. Il y a des images que Géraldine a réussi à faire qui sont superbes. Donc c'est un film où il y a de la mer et tant mieux parce que les films de mer sont très difficiles à faire. Et là, franchement, je suis très critique. Là, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup, et même sur le expérimental, sur le bateau avec Jean-Claude Parisi. Enfin, il y a pas que le Pierre Ier, il y a d'autres bateaux, donc il est très complet, et maritimement, c'est une réussite.
On termine par vos projets, et puis peut-être votre souvenir avant, votre meilleur souvenir à tous les deux, Samuel et Marilyn, de tournage.
Je pense que, c'est la route du Rhum, l'arrivée. Vraiment, c'était fou parce qu'on avait l'impression de la vivre que c'était la réalité et qu'elle arrivait. Il y avait énormément de figurants et je dois dire que c'était je sais pas si c'est le meilleur souvenir, mais c'est un souvenir très très fort et vraiment d'exaltation et de folie. Voilà, de folie comme rarement j'ai vu au sein d'un groupe, au sein d'une foule vraiment. Ça c'était impressionnant.
C'est belle.
Bon, la scène de rupture avec Stéphane en Afrique du Sud dans les vagues. Vraiment un moment magnifique. En plus, c'était moi ma dernière scène du film et je regarde vraiment un souvenir incroyable.
Bon. Marilyn, on se retrouve très vite puisque fin novembre vous revenez pour parler de Follow, qui est une série dans laquelle vous êtes aux côtés de Marie Colomb, Vincent Hénène, et qui va sortir sur 13e rue justement fin novembre. Donc on se retrouve le 25 novembre dans Chez ton écoute la télé pour revenir avec toute une partie d'équipe. Ça aussi, c'est un beau projet qui a été primé, prix de la meilleure série quand même au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle.
Oui, donc moi je suis très fière, très contente et oui, c'est un beau projet, ambitieux et vraiment très beau projet.
Et on se retrouve dans 4 semaines pour en parler.
Oui, absolument.
Merci. Marilyn, Samuel, les projets?
Moi je prépare mon second film en tant que réalisateur. Voilà, je travaille dessus.
Bon, on en reparle très vite aussi.
Oui, avec plaisir, avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Samuel. Et puis, merci Philippe, en tout cas, d'être passé aussi nous voir. Merci, en tout cas, d'avoir terminé cette spéciale Flow avec nous. Ça sort mercredi au cinéma, on ne le rate pas, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine. Merci à tous les trois.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé est consacré à Candice Renoir qui fait son grand retour pour un film événement réalisé par Raphaël Languet et puis toujours évidemment tenu de main de maître avec notre héroïne Cécile Bois qui est avec nous en ligne. Bonjour Cécile.
Bonjour à tous.
Qui va nous plonger dans l'univers. L'épisode s'intitule Des bonbons ou la vie et on va retrouver toujours avec grand plaisir Candice et Antoine dans de nouvelles aventures et une aventure, des aventures effrayantes mais juste ce qu'il faut pour pouvoir être regardé par toute la famille et ça c'est chouette.
Oui c'est ça, il y a un dosage d'un petit peu tout. C'est un épisode qui a été vraiment écrit pour Raphaël parce que Raphaël adore les films de genre, donc il s'était déjà un petit peu fait la main sur un épisode d'Halloween dans le château où c'était un espèce de Cluedo qu'il avait transformé un peu en épouvante. Et ben là on retombe dans les légendes d'Halloween. Voilà, c'est un exercice qui lui plaît et puis on a dosé entre la comédie, l'émotion et l'enquête évidemment et les légendes d'Halloween.
Alors c'est toujours un cadeau quand la série s'arrête au format série et qu'on vous retrouve comme ça dans des aventures, même de façon ponctuelle, mais une fois ou deux par an comme ça. C'est un véritable cadeau de pouvoir faire des téléfilms événements sur des événements, on va dire temporels, comme là Halloween, mais ça pourrait être pour Noël, pour plein d'autres choses. Et après vos dernières aventures en Corse, on avait tellement peur de pas vous retrouver.
Bah, c'est un bonheur pour nous aussi que nous a offert France 2, donc à Nolmes, qui a accepté l'idée du 90 minutes événement. C'est vrai que c'est assez stimulant parce que l'unitaire nous permet plus de liberté que la série. Sur la série, il faut tenir un feuilletonnant comme ça pendant 10 épisodes, donc l'exercice d'écriture est plus fastidieux. Là, sur des unitaires, on a plus de liberté, on peut s'autoriser beaucoup plus de choses, aussi bien au niveau du perso qu'au niveau des enquêtes. Et puis l'avenir va nous le montrer aussi, au vu de ce qui se prépare.
Alors, il est vrai que Candice est rendue donc à la financière. Elle s'y ennuie beaucoup, hein. Ça y change, on va dire, de ses enquêtes d'avant. Et elle va accompagner Antoine choisir des citrouilles sur un marché d'Halloween. Et il va y avoir une disparition d'enfants qui va être au cœur de cet épisode, hein.
C'est ça, l'épisode commence avec la disparition de deux enfants dans la fille d'Antoine. Et c'est vrai aussi que, à travers la financière, c'est pas du tout son credo. Et que la passion de l'enquête la submerge. Et en même temps, la hiérarchie, une fois de plus, et les conventions veulent qu'elle ne se mêle de rien. Et c'est forcément pas un personnage qui sait garder sa place. Donc en parallèle, à la fois dedans et à la fois dehors, en utilisant Antoine et en même temps en faisant les choses contre lui, elle va essayer de tisser sa propre enquête pour pouvoir réparer son erreur, puisque les enfants en plus étaient sous sa responsabilité.
Elle va pas en plus du tout se faire prier hein, pour rendosser un peu son costume d'enquêtrice hein, pour retrouver ses enfants. Hein.
Ah non, 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 elle va pas se faire prier. Elle, c'est spontané chez elle et c'est ce qui va valoir quelques moments de comédie, évidemment.
Ah, je dirais presque vital pour elle. Ça, oui. C'est clair, on le sent. On va retrouver évidemment ceux qui ont fait le succès de la série, Hélène Japin, mais aussi Olivier Cabassu. On a Lily Fleur-Pointeau également dans cet épisode exceptionnel aussi dans le rôle de Jennifer. Ali Mariar également qui va sortir son film, qui n'est pas dans cet épisode, mais qui va sortir son film. Hein. Je voulais le souligner aussi parce qu'on l'embrasse, Ali, mais il va sortir son film au cinéma très très prochainement. On en parlera évidemment très très vite. Mais ça, c'est un beau projet pour lui, ce qui explique certainement qu'il n'est pas dans cet épisode.
Il était concentré sur son film. Il s'appelle Comme un prince et je crois qu'il sort le 7 janvier. J'ai eu la chance de le voir en avant-première et voilà, c'était très 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 émouvant de le voir réaliser et en même temps se réaliser parce que ça fait longtemps qu'il y a un réalisateur en lui.
Eh ben voilà, c'est en fait des réalisateurs hein, sur Candice Renoir,
ouais,
mine de rien, c'est chouette hein, ça.
C'est vrai, ce sont des capitaines de bateau en fait qu'on a sur Candice beaucoup. Ouais.
Bon, alors une histoire sur Halloween, évidemment, on pouvait pas passer à côté de Jack O'Lantern puisque c'est lui qui a priori aurait enlevé ses deux enfants. Alors ça va créer évidemment des scènes assez cocasses. Mais est-ce qu'il y a un souvenir particulier d'une scène où il a été difficile, peut-être, soit surprenante ou plutôt très drôle à tourner, en tout cas avec Raphaël aux manettes en plus. Je suis sûr qu'il y a une anecdote à nous raconter, Cécile.
Non, Raphaël est moins drôle quand il réalise que quand il joue. Il est extrêmement concentré sur son film, sur l'aspect technique aussi du film dont il n'a pas à s'occuper quand il est comédien. Quand il est comédien, il a du temps à perdre. Donc c'est là en général que toutes les zones de son cerveau sont polarisées sur le rire et sur faire rire ses camarades pour ne pas s'ennuyer. Alors que réalisateur, il y a toutes les parties de son cerveau qui sont occupées. Donc il a moins d'espace à partager avec nous les comédiens. Et sur cet épisode était assez difficile à mettre en scène parce qu'en plus on était au mois de juin, il fallait faire Halloween en hiver, voilà. Donc il a eu plusieurs étapes un peu plus difficiles que sur d'autres réalisations. Ce qui était pas mal, c'est plus un souvenir à la fois un peu onirique et angoissant, qui était celui de tourner dans une fête foraine totalement vide, deux jours en période estivale en plus, où on avait tous les manèges pour nous, où on avait en plus Eric Bernard qui était dedans, qui faisait une silhouette de clown, donc il y avait quelque chose de très singulier. J'étais avec Quentin aussi, Michael, et on vagabondait tous les trois dans le parc d'attractions. Et il y avait quelque chose de à la fois onirique, à la fois un peu angoissant et en même temps de très exceptionnel parce qu'on n'a jamais, on n'est jamais emmené à être dans un parc nu, quoi, sans personne et sans les manèges qui tournent. Donc c'était un moment assez singulier, assez magique.
Bon, en tout cas, cette aventure qu'on va découvrir, ce n'est pas un final, on le dit, on le redit, hein, malgré ce qu'il y en a qui peuvent dire ou lire sur les réseaux, mais ce n'est pas un final, puisque a priori, il y aurait déjà une nouvelle aventure qui est en train d'être écrite. Donc un prochain cadeau en perspective pour nous les fans.
Absolument, oui, on a cette chance-là. Il est en cours d'écriture et on espère le tourner soit à la fin de l'hiver, soit au début du printemps. Toujours Antoine, Candice et le retour d'une partie de mes camarades. Voilà.
Génial. Et si on devait te proposer, Cécile, le retour de format série, vu le succès, tu dirais oui, tu voudrais faire peut-être un peu moins d'épisodes?
C'est une discussion que j'ai déjà eue avec la production, avec la chaîne. C'est une idée qui m'a été déjà soumise avec la possibilité de la faire. J'ai décliné parce que j'en suis sortie, pas pour y revenir, en tout cas pas maintenant et pas dans les mêmes conditions qu'avant. C'est quand même, disons, une vie, 7 mois sur les routes. C'est physiquement difficile et surtout ça m'empêche de vivre aussi d'autres aventures que j'ai envie de vivre maintenant. Et en même temps, garder Candice comme je le fais sous cette forme-là, c'est à chaque fois continuer à savourer le bonbon dans les meilleures conditions, quoi.
Mais oui. Exactement. Et puis pour nous aussi, je t'avoue, le fait de garder ce plaisir justement intact à tourner des aventures un peu moins régulièrement, on va dire, mais de temps en temps de façon événementielle, c'est un vrai plaisir pour nous aussi. Justement, ça fait un beau crochet. Tes projets, Cécile, on va te voir 2024. J'imagine qu'il y a plein de choses qui sont en train de se dessiner, dans lesquelles on va te voir prochainement.
Oui, j'ai là je vais partir pour Lille pour tourner avec Éric Métayer, un film où je serai très bien accompagnée avec Marc Sicquier et Odile Villemin, voilà, qui est un drame. Je vais basculer dans le drame, je suis assez impatiente, c'est une très très belle écriture. Et puis après, je vais enchaîner en début de l'année normalement avec une comédie, voilà, une comédie familiale, on va dire. Voilà, avant de continuer sur Candice et d'autres aventures qui sont en cours d'écriture en ce moment, voilà.
Eh ben écoute, on reste connecté. Merci infiniment d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Candice Renoir, le grand retour pour un épisode exceptionnel autour d'Halloween, ça tombe bien. Et on va savourer évidemment notre plaisir à 21h10 sur France 2. Merci et à bientôt.
Merci Alain.
Non, attends, c'est pas possible.
Suzanne, pas de caprice, pas de caprice.
Non, je vais les emmener aux bonbons.
Je suis sûre que tu es une petite gourmande.
Ah, Candice Renoir, inédit.
Suzanne, Nathan.
Qu'est-ce qui se passe? Les enfants ont disparu.
Suzanne, et Nathan, il est où?
C'est Jack qui l'a pris.
C'est qui Jack?
Satan est mort.
Les cristaux, les bougies, ça a sa pleurie de satanique, non? Il y a un truc.
Juste vous ouvrir à la possibilité que des forces inconnues sont à l'œuvre.
Notre coup de cœur télé consacré à Sophie Cross qui fait son grand retour pour une saison 2 et des épisodes inédits à partir de demain sur France 3. Quelle joie pour nous de retrouver Alexia Barlier qui est avec nous. Bonjour Alexia.
Bonjour Alain, merci de m'accueillir à nouveau pour cette saison 2.
C'était écoute, un plaisir on était là.
De la saison 1 avec toi.
Mais oui,
ouais, exactement.
Quelle aventure. Et franchement, quand on voit qu'en plus on vient de revoir la saison 1 pour notre plus grand plaisir et qu'elle termine en plus en tête des audiences, Sophie Cross est vraiment en train de s'installer durablement dans le cœur des spectateurs.
On l'espère, parce que je prends beaucoup de plaisir à défendre ce personnage et raconter son parcours émotionnel et sa recherche acharnée pour son fils. Et aussi, on s'entend tous très bien avec nos partenaires de jeu, tous les acteurs. Donc, on espère avoir l'occasion de se retrouver à nouveau pour d'autres épisodes dans le futur.
Et oui, alors pour ceux qui n'auraient pas vu les 3 épisodes qui viennent d'être rediffusés de la saison 1, Sophie Cross se fait enlever son petit Arthur, justement. Enfin, est-il enlevé? En tout cas, c'est ce qu'elle va essayer de découvrir au fil de cette saison, jusqu'au moment où, à la fin de cette première saison, elle a cru reconnaître Arthur, et c'est le petit Sébastien qui vont réussir à sauver in extremis des griffes de Céline Chassagne. Enfin, un nom qui arrive et qui va être un peu le fil conducteur de cette deuxième saison qui arrive, hein, Alexia.
Oui, tout à fait. C'est une vraie piste à la fin de la saison 1. On avance vraiment sur ce qui a pu arriver à Arthur. Effectivement, il semblerait qu'il ait été enlevé et que c'était pour le revendre à d'autres parents potentiels. Enfin, tout un réseau de kidnapping d'enfants. Et on a ce nom de cette femme qui aurait participé au kidnapping de mon fils Arthur. Donc, c'est une vraie piste qui est enfin solide et qui nous donne des choses concrètes et un vrai espoir de retrouver notre fils. Mais effectivement, à la fin de cette saison 1, on pense qu'il s'agit d'Arthur, mais c'est un autre petit garçon qui avait été enlevé. Il va pouvoir retrouver ses parents grâce à nous, mais nous, c'est pas encore le cas.
Et puis, évidemment, il va y avoir des enquêtes à mener en parallèle avec Thomas Jouannet, hein, qui joue le rôle de Thomas Leclerc, et puis Cyril Lecomte, hein, toujours aussi brut de décoffrage dans le rôle de Gabriel qu'on va découvrir. Il y a toute une équipe d'enquêteurs qui va devoir, pour ce premier épisode, eh bien enquêter sur un bibliothécaire qui cachait bien des choses, hein, on a l'impression quand même.
Oui, qui est retrouvé mort dans des circonstances un peu étranges, avec beaucoup d'argent autour de lui, beaucoup d'espèces, des billets autour de lui, ce qui soulève plein de questions de savoir d'où ça vient. Enfin voilà, c'est une enquête très dense et très intéressante, comme c'est les écrits de Paul Piedefort, notre scénariste. Et effectivement, en même temps de cette enquête qui se passe aux universités, il y a cette quête de Sophie pour retrouver son fils. Et donc voilà, c'est sur les deux fronts et les deux enquêtes avancent. Des rebondissements, des espoirs, des déceptions. Enfin voilà, l'enquête pour son fils est plus développée dans cette saison 2. Je pense qu'elle va vraiment capturer le téléspectateur.
Ouais, et puis se mêle aux enquêtes, voilà, c'est vraiment ce fil rouge. Et puis après, il y a des enquêtes dans chaque épisode, des enquêtes bouclées pour le coup. Mais c'est vraiment le fil rouge, hein, la recherche de son fils. Alors, le retrouvera-t-elle, hein, en tout cas à la fin de cette saison 2? On ne sait pas, c'est ce qu'on va découvrir en tout cas au fur et à mesure des épisodes. Alors moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a quand même quelques touches de comédie aussi. Il y a besoin, hein, parce que dans ces touches de tension aussi. Et alors la comédie, elle est amenée par ces deux bleus, ces deux étudiants qui essayent en fait de mener l'enquête à votre place, hein, à la bibliothèque. Et ils m'ont vraiment fait rire, hein, ces deux bras cassés, ces deux étudiants qui ont essayé de mettre tout en place pour que la scène de crime ne bouge pas, soit nickel. En fait, ils ont fait tout de travers, quoi.
quand on arrive sur la scène de crime, ils ont soi-disant sécurisé, protégé la scène de crime, un peu à leur façon, avec les séries qu'ils ont vues, les séries policières. Ils sont vraiment drôles tous les deux, et les deux acteurs sont superbes. Donc on s'est vraiment amusé à construire toutes ces séquences ensemble. Et c'est vrai que Sophie Cross, c'est lourd émotionnellement, ouais. Le parcours de Thomas et Sophie pour retrouver leur fils. Il y a rien de pire que de perdre son fils qui soit enlevé. Donc ça, c'est vraiment lourd. Donc c'est important d'avoir aussi en parallèle d'autres personnages qui viennent apporter un peu de légèreté et de l'humour à la série pour que ce soit quand même un moment émouvant mais agréable et divertissant pour le spectateur. Donc je pense que c'est vraiment réussi dans cette saison 2. Encore plus que dans la saison 1, il y a aussi tout un ressort comique entre Amina de Ken et Fred Fontaine, nos deux autres lieutenants,
ben oui.
Et Cyril Lecomte. Et ça, c'est vraiment, il y a des moments bien croustillants entre tous. Et en même temps, tout ce côté plus dramatique et profond et intense amené par Thomas et moi dans la recherche de la fille.
Ouais, j'aime
et
bien aussi.
Bien évidemment, qui...
Ah ben oui, on a Nadia Fossier dans le premier épisode là que vous voyez dans Un ouais. Si grand soleil et on a Nadia qui vient faire justement un guest dans ce premier épisode qu'on adore aussi Nadia, on l'embrasse d'ailleurs.
C'est un plaisir de l'accueillir sur notre série.
Eh ben écoute, en tout cas, moi je suis sûr que tu prends un plaisir fou et sans évidemment nous dévoiler quoi que ce soit, Alexia, sur la fin, est-ce que c'est bouclé ou est-ce que tu aimerais, en tout cas, ou est-ce que l'équipe commence déjà à travailler sur une troisième saison?
On aimerait tous faire une troisième saison parce que on est attaché à nos personnages, on s'entend tous très bien et c'est une série de qualité dont on est fier. Donc on prend du plaisir sur le tournage et on a l'impression que le public prend du plaisir à la regarder. Donc on espère une saison 3. Je sais que c'est un désir de la production et de la chaîne, mais ça dépendra des audiences. Donc là, ils réfléchissent au scénario et à ce qui pourrait se passer dans une saison 3, mais ça dépendra si les téléspectateurs sont au rendez-vous dans leurs écrans le 31 et les deux mardis qui suivent ou pas. Donc on verra. Mais c'est tout à fait possible.
Mais ils seront là. Donc ça veut dire que la fin de la saison 2, il y a quelques ouvertures qui peuvent laisser entrevoir en tout cas une suite à Sophie Cross et aux aventures de Sophie et de Thomas notamment qu'on aime suivre évidemment.
Exactement.
Et puis dis-moi Alexia, tu es en plein tournage, alors merci de nous offrir ces quelques minutes, c'est encore plus précieux quand voilà une comédienne est en tournage et qu'elle nous offre quelques minutes entre deux scènes puisque tu es sur Tout, la saison 2 pour OCS, une série qu'on a découvert justement il y a maintenant plusieurs mois sur OCS, et donc là tu es en tournage de la saison 2 hein, déjà.
Exactement, je suis retournée à Toulouse, on a commencé le tournage il y a une semaine, on a 6 semaines de tournage. Je suis ravie de retrouver ce personnage de Jane, cette espionne américaine qui se fait passer pour une prof d'aérobic. C'est une série qui est basée dans les années 80 et qui est vraiment drôle. C'est du 10 fois 20 minutes sur la plateforme OCS. La saison 1 a vraiment cartonné sur la plateforme. Je crois que c'est la série OCS signature qui a été le plus finie. Donc voilà, on tourne cette saison 2. Elle est vraiment drôle et en même temps, il y a des vrais moments d'émotion aussi. Notamment amené par le personnage de Jane. Et pour juste vous donner des petites infos sur cette saison 2, il y a toujours de l'aérobic et j'ai un collègue des États-Unis qui me rejoint et qui vient aussi donner
du piment
à cette saison 2. Ouais, du piment. Donc il y a deux Américains maintenant à Blagnac dans la banlieue de Toulouse. C'est vraiment chouette. Donc à regarder aussi dans quelques mois sur OCS quand ça sortira.
Eh ben écoute, on se passera un coup de fil à ce moment-là. Tiens, ça sera l'occasion de savoir en attendant le retour de Sophie Cross saison 3. On sera là aussi, évidemment, ma chère Alexia.
Merci beaucoup Alain.
On t'embrasse, on te dit à très vite en tout cas et puis on ne rate pas la saison 2, la suite tant attendue de Sophie Cross. Ça démarre demain soir et c'est à 21h10 sur France 3 pour le premier épisode inédit et puis le 7 et le 14 novembre vous découvrirez les deux autres épisodes. Merci et à très bientôt.
Merci Alain, bon visionnage à tous. Au revoir.
Ton fils, il est là. Alors ne t'arrête jamais de le chercher.
Si t'avais pas appelé ce jour-là, Arthur serait encore avec nous.
Cette femme est recherchée pour enlèvement. Si vous avez la moindre information sur elle, merci d'appeler ce numéro.
Non, Céline ! Méchant ! Méchant.
Allez, vous bougez pas, on termine l'émission dans un instant avec Éléonore Bernheim, Tom Darmon et Margot Aguilar. Surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Mort sur la piste, hein, le téléfilm événement sur France 3 avec Éléonore Bernheim qui a eu une énorme chance de tourner. Jason Priestley qui est à l'affiche également de ce téléfilm tourné au Mans. Bonjour Éléonore et merci d'être avec nous une nouvelle fois.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Alors écoute, tu sais qu'on est fidèle de tes aventures dans l'art du crime, mais alors là, c'est une toute autre aventure qui t'attend sur les circuits du Mans et aux côtés de Jason Priestley. Une rencontre improbable là pour toi?
Alors vraiment improbable. C'est-à-dire que si quand j'avais 14 ans, quand je regardais Beverly Hills, on m'avait dit, tu vois lui là, le Brandon, un jour tu vas tourner avec lui. J'aurais dit, Brad Pitt, oui peut-être, c'est très très très, ça me paraît loin, mais quand même, on sait jamais. Mais Brandon, jamais. C'était vraiment aux antipodes de tout. Enfin, voilà, à l'autre bout du monde, une série télévisée. Enfin, tout était à l'opposé de ce que je pensais pouvoir m'arriver. Et voilà, ça m'est arrivé. Et c'est entre autres pour cette raison que j'ai fait ce projet, parce que je me suis dit, c'est pas...
Tu peux pas passer à côté.
Il faut vraiment honorer ce truc-là, quoi.
Alors, l'histoire en quelques mots. Tu peux nous planter un peu le décor.
Ouais, alors c'est aussi aux antipodes de l'art du crime. Donc... En revanche, c'est quand même un binôme, évidemment, sinon ce serait pas marrant. Donc c'est une flic française qui vit au Mans, qui est une femme seule, célibataire, qui élève seule sa fille, son adolescente, qui est quelqu'un de très 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 terrien, sans détour, quoi, assez frontal comme ça, qui va mener une enquête avec un flic de la crime de Los Angeles, qui est là en stage d'observation. Jason Priestley, qu'on lui a collé et qui va avoir des méthodes pour le moins pas du tout académiques, et donc il va y avoir des petites difficultés d'accordement entre les deux, qui finalement, évidemment, tout ça va s'avérer fructueux. C'est un crime qui a un lien avec la course automobile. Et voilà, c'est dans ce milieu-là. Et lui, c'est le personnage de Jason. C'est un type qui est un ancien coureur automobile, qui a eu un très grave accident de voiture et qui est devenu flic après ça. Et il se trouve que Jason, je ne sais pas si les gens le savent, mais ça a été un coureur automobile aussi et qui a eu aussi un très grave accident de voiture. Très, très grave, vraiment. Voilà, donc la coïncidence est assez dingue. Il y a des parallèles qui sont assez dingues entre le parcours de Jason et le parcours de son personnage à lui.
Ce qui est assez dingue, c'est voir Jason Priestley justement au Mans. On nous aurait dit Patrick Dempsey, qui est un habitué pour le coup des 24 heures du Mans, intégré justement à un film comme ça. Mais là, voilà, c'est assez dingue. Au casting, qui c'est qui vous accompagne aussi?
Olivier Marchal, qui a été une super rencontre aussi. Je le connaissais pas, j'avais jamais travaillé avec lui. On n'a pas beaucoup de scènes ensemble, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un super acteur et un super type avec qui nous avons partagé Jason, lui et moi, de très bons moments de partage. Voilà, il y a Guillaume Faure,
Mathieu Delarive aussi.
Mathieu Delarive, Roby Skinazi. Ouais, vraiment super. Enfin, il y a toute une troupe, il y a pas mal d'autres acteurs avec qui vraiment tous, ça a été formidable de travailler sous la direction de Philippe Dajou, avec qui j'avais jamais travaillé. Il se trouvait que j'avais été jury au festival de Luchon et on lui avait remis un prix de la meilleure réalisation pour Le Village des Endormis très peu de temps avant, et je m'étais dit, j'aimerais bien travailler avec ce type parce que j'avais trouvé sa réalisation très nerveuse et intense. Ben voilà, la vie est bien faite, voyez-vous. Jason Priestley et Philippe Dajou, puisque quelques temps après, on a tourné ensemble.
Quel beau cadeau, tout ça. Bon, après, il y a bien sûr l'art du crime aussi qui continue pour toi, avec Nicolas Gomme. On te voit régulièrement, tous les ans, pour une immersion dans le monde de l'art. Et puis, Mort sur la piste, donc nouveau polar régional qu'on va découvrir sur France 3. En tout cas, Éléonore, plein de belles choses.
Enfin, régional et international.
Bah oui, évidemment. Ben oui, ben oui, intrigomant, voilà, mais surtout Jason Priestley, c'est quand même l'événement, ouais, je dois avouer, c'est la classe, ouais. Tu as raison. Bon, merci en tout cas, Éléonore, d'avoir été avec nous.
Merci à vous, merci beaucoup.
On va découvrir cette semaine sur France 3, Mort sur la piste, c'est le film à ne pas rater. Olivier Marchal, Guillaume Faure, Roby Skinazi, Mathieu Delarive et bien sûr Éléonore Bernheim et Jason Priestley. C'est donc cette semaine, on va se quitter avec un extrait, merci à toi.
Merci beaucoup, je n'ai pas trouvé de pièce, je me sacrifie. Oh merci, je t'en voudrais ça.
Alors, vous avez choisi?
C'est moi qui m'y colle.
Très bien, donc je vous présente le capitaine Ryan Martin, de la police de Los Angeles.
Hi, capitaine Sabrina Nedjar, nice to meet you.
Enchanté Sabrina, désolé, mon français n'est pas très bon, but it's nice to be working with you.
On va accueillir aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé, l'un des couples phares de la série Ici tout commence, et on va pas bouder notre plaisir. On va commencer par les filles parce qu'on est galants. C'est Margot Aguilar qui joue Billy Couder qui est avec nous. Bonjour Margot.
Bonjour.
Merci d'être là. Et puis ton binôme, Tom Darmon, qui joue Tom dans la série, l'insupportable Tom, mais l'attachant Tom aussi, l'attachant même, je dirais, par moment. Comment ça va?
Eh ben, ça va très bien. Je suis ravi d'être avec vous. Enchanté.
Merci d'être là tous les deux. J'avais envie vraiment de cette interview un peu duo avec vous, parce que ce couple, on l'a pas vu arriver, ni les uns ni les autres. Ce couple improbable qui s'est formé devant nos yeux entre Billy et Tom, qui a pas été comme un coup de foudre, qui a eu du mal à s'assumer, et puis qui est maintenant qui est comme sur des roulettes, Margot.
Oui, c'est vrai que c'était pas du tout une évidence, Tom Billy. Je pense que personne n'aurait parié là-dessus. Et ouais, contre toute attente, bah ça fonctionne vachement bien. Hein.
Alors toi qui es en deuxième année, cette année, Tom, lui, passe en troisième année, il y a un petit échelon juste. Mais Tom, c'est toujours celui qui va essayer de fouiner, de chercher la merde. Et c'est ça qu'on aime aussi chez ce personnage, il en faut des comme ça.
En fait, je suis assez content parce qu'on a trouvé un créneau qui permet à Tom de dire ce que les autres n'osent pas dire tout haut. Donc en fait, moi j'étais à la recherche d'un créneau un peu original, parce que c'est ce qui marche dans cette série, c'est, si on fait doublon avec quelqu'un, ça fonctionne pas. Et on a réussi à faire un mix de son côté sensible, romantique, avec son histoire avec Billy. Et puis par rapport aux autres, c'est toujours quelqu'un qui est un peu bah voilà, qui est assez cash, qui dit ce qu'il pense. Ça me ressemble un peu, moi j'aime bien.
On avait l'impression même d'un personnage totalement détaché un peu de tout, y compris des situations amoureuses. Et là, vraiment, Billy l'a transformé, quoi. On a vraiment découvert la facette romantique de Tom.
En fait, c'est un concours de circonstances, parce que moi, quand je suis arrivé dans la série, c'était mon premier projet et j'avais peur d'en faire trop. J'osais pas trop m'ouvrir, j'osais pas trop y aller, en fait. J'avais peur de jouer faux, je me jugeais énormément. Ça prend du temps aussi, c'est un processus de s'assumer en tant que comédien et puis d'y aller et de prendre confiance en soi et de se dire, ok, je suis légitime aussi pour jouer. Et puis moi, j'avais ce, voilà, j'avais aussi, bah, par rapport à ma famille, j'avais une espèce de, pas de complexe, mais, je me sentais pas forcément à l'aise ou légitime. Et au moment où j'ai commencé à m'émanciper, ils ont décidé de nous mettre ensemble avec Margot. Moi, j'y croyais pas du tout. J'ai cru une blague au début. Et au final, bah, ça a permis de tout mettre en place. Et puis tout s'est harmonisé. Et là, ça va beaucoup mieux.
Billy, c'est une éternelle romantique, une éternelle amoureuse, une éternelle optimiste. C'est un personnage auquel on s'est attaché tellement vite.
Oui, c'est vrai que Billy, bah, elle est amoureuse de l'amour, hein, vraiment. Que ce soit pour elle ou pour les autres, dès qu'elle voit un couple, bah, elle est très heureuse. Enfin, quand Joachim et Clotilde n'étaient plus ensemble, pour elle, c'était vraiment la fin du monde. Et ouais, finalement, c'est un peu bah, la relation avec Tom, la relation dont elle a toujours rêvé, quoi.
C'est un peu la reine du gossip aussi.
C'est ce que j'allais dire, c'est là où ils se rejoignent, parce que lui, il aime bien aller fouiner. Et ouais, Billy, elle adore les gossips, clairement.
Quand vous êtes arrivés au château la première fois, tous les deux, vous vous êtes dit quoi? Parce que le décor est quand même relativement exceptionnel. Il y a très très peu aujourd'hui de comédiens qui ont la chance de tourner dans un décor pareil. Mais j'imagine la première fois que vous êtes arrivés pour le visiter, pour regarder ce qui se passait, mais vous avez dû vous dire « waouh ».
Oui, c'est clair que c'était très impressionnant. T'as le, bah, déjà le château. Enfin, on arrive, on est dans un château, magnifique piscine, il y avait des fleurs partout. Enfin, c'était juste extraordinaire. Et ouais, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte, bah, de l'endroit où on est et de ce qui va se passer. Et ça devient réel, quoi. Parce que juste là, c'était les castings. Enfin, j'avais regardé un peu à la télé, je connaissais pas plus que ça. D'être sur place, on se dit, ok, c'est parti, ça commence.
Au moment où on arrive, c'est un bouleversement parce qu'on vient d'être pris. On est tous castés très tard, donc on a la réponse 2 ou 3 jours avant d'arriver au château. Donc on découvre en fait ce qui nous arrive. On prend conscience du changement de vie qui nous attend. Et c'est vrai que pour des jeunes qui ont 20, 22, 25 ans, d'arriver dans cet univers, de voir ces centaines de personnes qui travaillent et de voir ce décor qui nous dépasse tous, c'est-à-dire ce château si bien entretenu, ces petits décors tout neufs, tout pomponnés, etc. En fait, on est un peu dépassé par l'immensité de l'endroit et du projet, mais en même temps, on se dit qu'il va falloir qu'on trouve notre place. Et chacun prend son rythme, chacun prend son temps, chacun a son rythme. On s'implante et on fait notre place.
Mais une chose importante aussi, vous avez eu quand même le petit truc en plus tous les deux, parce que autant Lucien, Aurélie, Mickaël, Nicolas, Catherine, eux quand ils sont arrivés, ils savaient pas ce qu'allait donner la série. Ils savaient pas du tout où ils mettaient les pieds, ils savaient pas si ça allait marcher, ça aurait pu capoter et être un échec au bout de 3 mois et la série soit arrêtée. Vous, quand vous êtes arrivés en deuxième ou en troisième année, vous saviez le succès de la série, vous saviez ce qui vous attendait, vous saviez aussi ce changement de vie et de statut qui vous attendait. Comment vous êtes apprêté à le vivre ça? Tous les deux.
Moi, j'avoue que je me suis pas du tout apprêtée à le vivre, et je pense que même encore à l'heure actuelle, même si je suis consciente que c'est un gros succès, je me rends toujours pas compte de l'impact réel que ça a. Et je m'en suis vraiment rendu compte. Enfin, j'ai commencé à m'en rendre compte il y a vraiment peut-être 3 mois. je sais plus, j'étais ni dans le sud ni à Paris, c'est dans une ville en France, et on m'a arrêté et je me suis dit putain, mais genre même jusqu'ici on m'arrête. Et c'est là que je me suis dit mais en fait c'est toute la France, c'est 4 millions de personnes, enfin donc ouais c'est énorme. Mais on peut pas se préparer à ça.
Tu vois, tu disais qu'on a un truc en plus en arrivant parce qu'on est déjà au courant du succès. Moi, je dirais que c'est peut-être un truc en moins parce qu'en fait, j'aurais adoré être là au tout début. J'aurais adoré construire la série, la voir éclore, avoir ce petit stress avant de pas savoir si ça va plaire, de voir le succès. Et il y a quelque chose aussi qu'on n'enlèvera jamais aux personnages historiques, c'est-à-dire que ceux qui ont créé la série. Alors bon, j'ai la chance de faire partie des premiers nouveaux, donc à mon échelle, j'ai mon petit truc historique à moi, c'est que on était attendus un peu comme des. En même temps, on aurait tous adoré être là au tout début. On aurait tous adoré être là au jour 1. Alors moi, je suis arrivé dans cet écosystème. C'est-à-dire que je suis arrivé, ça faisait 8 mois qu'il tournait. Bon, il y avait tous les personnages historiques qui étaient encore là. Mais je sais pas si c'est un truc en plus d'arriver en ayant conscience du succès ou si ça met juste une pression supplémentaire.
Dernière question, vos projets. Est-ce qu'il y a des choses à côté d'Ici Tout Commence qui vous attendent tous les deux?
Moi pour le moment je me concentre surtout essentiellement sur Ici Tout Commence. On passe des castings avec les agents et puis voilà.
C'est déjà bien, c'est déjà très bien, ça vous occupe bien Tom. La musique aussi?
De la musique aussi, toujours un peu de radio, sur une radio concurrente, mais toujours un peu de radio.
Grande radio nationale. La première radio nationale musicale.
Exactement, la première radio musicale de France. Donc je travaille toujours avec eux, je continue de réaliser des vidéos pour des marques aussi. Je compose toujours un peu de musique, on verra ce que ça donne. Et puis les castings, beaucoup de casting, et puis des petites ouvertures aussi avec la chaîne. On regarde un petit peu en termes de télé ce qu'on peut faire ensemble.
Merci à tous les deux, merci Margot, merci Tom d'avoir été avec nous et d'avoir passé ce moment. On vous dit à très bientôt.
Merci
à toi, c'était un plaisir, à très vite.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Nous consacrerons une large partie à la sortie du film L'Abbé Pierre, une vie de combat. Frédéric Tellier, le réalisateur, sera là, accompagné de Benjamin Laverne et d'Emmanuel Berco. On parlera également des retrouvailles de Clem avec Lucie Lucas, son héroïne. Anne Lenen également sera avec nous pour Master Crime. Bref, plein de surprises.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07. Pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Sainte à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels avec une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est deux agences en Charente, à votre service, à Angoulême et Villebois-Lavalette, et sur mazagran-immobilier.com.